Chemin de vie. Chers auditeurs, l'heure d'écouter votre rubrique Chemin de vie est arrivée. Nous avons le plaisir de vous présenter cette étude systématique de la Bible, chaque jour, du lundi au vendredi, à cette même heure. Au micro, Heidi.
Ainsi que Jean et Daniel, à la technique. Nous voici au chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Le prophète est envoyé pour rassurer les enfants de Juda qui craignent les attaques de la Syrie. Incrédule, le roi demande alors un signe. Dieu va-t-il lui accorder ?
Bonne question, Jean. C'est d'ailleurs ce chant intitulé « Chantons gloire » interprété par Luc Gingras qui introduira les moments qui vont suivre.
Je te suivrai tous les jours de ma vie. Je te suivrai tous les jours de ma vie, chantant gloire, gloire, chantant gloire, gloire. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Je te poursuivrai tous les jours de ma vie. Je te poursuivrai tous les jours de ma vie. Chantons gloire, gloire, chantons gloire, gloire. Toute ma vie, je te suivrai jusqu'au bout du monde. Contre vents et contre marées, je te ferai connaître au monde.
On a l'habitude de dire « tel père, tel fils ». Pour ma part, j'ai pris conscience que dans un certain nombre de domaines, j'agis comme mon père et dans d'autres, comme ma mère. Alors en fin de compte, je ne suis pas très différent de mes parents. C'est très logique, me direz-vous. Pourtant, les exceptions qui confirment la règle, comme on dit, peuvent être de taille. Les exemples ne manquent pas dans la vie courante et on en trouve aussi dans les Écritures. Le prophète Ésaïe a eu un long ministère qui a chapeauté les règnes de quatre rois de Juda, Ozias, Jotham, Achaz et Ézéchias. Le premier, Ozias, fut un bon roi, comme Amatsia, son père, et comme Jotham, son fils. Mais curieusement, Achaz, le troisième, c'est-à-dire petit-fils d'Ozias, fut ignoble. Par contre, Ézéchias, le quatrième et le fils de l'ignoble Achaz, fut un très bon roi. Malheureusement, le suivant, Manassé, le fils d'Ézéchias et petit-fils du roi ignoble Achaz, fut le plus exécrable de tous. Tel père, tel fils ne se vérifie donc pas aussi souvent qu'on croit. Je commence maintenant à lire le chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Sous le règne d'Achaz, fils de Jotham et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, Retsin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent la vaincre. Verset 1. Je vais essayer de situer tous les personnages cités par le prophète ainsi que ces événements qui comprennent plusieurs campagnes militaires. Il faut dire que c'est assez compliqué et pour y voir clair, il est nécessaire de faire plusieurs recoupements de différents textes tirés des seconds livres des rois et des chroniques qui font partie des écrits historiques de l'Ancien Testament. Les circonstances tragiques décrites par Ésaïe ont eu lieu en l'an 734 avant Jésus-Christ, au début du règne du roi Achaz. Le chapitre précédent a décrit la vision de la majesté et de la sainteté de l'Éternel qu'Ésaïe avait reçue dans l'année de la mort d'Ozias, un bon roi. Son fils Jotham lui succéda. Je lis le passage. La deuxième année du règne de Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, devint roi de Juda. Il avait 25 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yerusha, fille de Tsadok. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son père Ozias. Fin de citation. Curieusement, les textes sacrés donnent souvent la chronologie des rois de Juda, c'est-à-dire le royaume israélite du sud par rapport au règne des rois israélites des 10 tribus du nord, et inversement. Péka était un aventurier, un vaurien, qui avait réussi à s'emparer du trône du royaume israélite du nord et qui régna pendant 20 ans avant d'être assassiné. Il s'était allié à Retsin, roi de Syrie, qui déclara la guerre à Jotham, le successeur du bon roi Ozias. En effet, un texte lit « Pendant le règne de Jotham, l'Éternel commença à envoyer contre Juda, Retsin, roi de Syrie, et Péka, fils de Remaliaou. » Fin de citation. Puis Jotham meurt et son fils Achaz lui succède. Ce fut, je le rappelle, un roi ignoble. Je lis le passage. La 17e année du règne de Péka, fils de Remaliaou, Achaz, fils de Jotham, roi de Juda, devint roi. Il était âgé de 20 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce que l'Éternel son Dieu considère comme juste, contrairement à son ancêtre David. Mais il suivit l'exemple des rois d'Israël et ordonna même de fondre des statues en l'honneur des Baals. Il offrit des parfums dans la vallée de Ben-Hinnom et fit brûler ses propres fils pour les offrir en sacrifice aux idoles, commettant ainsi la même abomination que les nations païennes que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Il offrait des sacrifices et brûlait des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous chaque arbre verdoyant. L'Éternel, son Dieu, provoqua sa défaite devant le roi de Syrie. Fin de citation. Ce texte nous donne la cause spirituelle de la défaite militaire du roi Achaz, mais parallèlement, il y avait aussi une raison politique. En effet, déjà au temps du roi Jotham, père de Achaz, la Syrie et le royaume israélite des 10 tribus du nord s'étaient alliés pour faire face à la Syrie, qui montait en puissance et inquiétait ses voisins. Alors il y a la Syrie et l'Empire assyrien, la Syrie. Il ne faut pas les confondre. Ces deux alliés, la Syrie et les 10 tribus du Nord, voulaient contraindre le royaume de Juda à entrer dans leur coalition. Mais comme Achaz était pro-assyrien, ils décidèrent de lui faire la guerre, de le déposer et de le remplacer par quelqu'un de favorable à leur cause. Je continue le texte d'Ésaïe, chapitre 7. Quand on apprit à la cour du royaume de David que les Syriens avaient pris position en territoire éphraïmite, le roi et tous ses sujets en furent secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Verset 2. La tribu d'Éphraïm était d'une part la plus importante des 10 qui formaient le royaume israélite du nord et d'autre part son territoire était tout au sud, donc frontalier avec le royaume de Juda. C'est pour cette raison que la cour du roi est dans tous ses émois quand on apprend que le Syrien Retsin réunissait son armée avec celle du roi Péka pour attaquer Jérusalem par le nord. Avant de se rassembler dans le territoire d'Éphraïm, les Syriens venaient, par un heureux coup de main, de conquérir le port d'Elat, qui appartenait à Juda et qui est situé à l'extrémité nord du golfe d'Aqaba sur la mer Rouge. Je lis le passage. Vers la même époque, Retsin, roi de Syrie, ramena Elat sous la domination des Syriens. Il en chassa les Judéens et des Édomites vinrent s'y installer. Fin de citation. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Juda avait non seulement perdu le port de Elat, mais avait aussi été attaqué dans le sud de leur pays par deux autres nations. Je lis le passage. De nouveau, les Édomites avaient envahi le royaume de Juda, avaient battu les Judéens et emmené des captifs. À la même époque, les Philistins firent une incursion dans les villes du bas pays occidental et du Négev qui appartenaient à Juda. Ils s'emparèrent de plusieurs villes et localités et s'y établirent. Fin de citation. Juda avait subi défaite sur défaite. Et maintenant, les Judéens se faisaient écraser par les Syriens et les Israélites des 10 tribus du Nord. Je lis le passage. Les Syriens battirent Akaz et lui prirent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. La victoire sur Akaz fut aussi accordée au roi d'Israël, qui lui infligea une lourde défaite. En un seul jour, Péka, fils de Remaliaou, massacra en Juda 120 000 hommes, tous de vaillants guerriers, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Les Israélites prirent aux Judéens, leurs compatriotes, 200 000 personnes, femmes, garçons et filles, ainsi qu'un butin considérable qu'ils emportèrent à Samarie. Fin de citation. Le royaume de Juda est pris dans un étau et envahi par le nord et le sud. La ville de Jérusalem, puissamment fortifiée, est encerclée mais ne sera pas conquise, ce que le prophète a déjà précisé quand il a dit « Retsin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Péka, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent la vaincre. » Fin de citation. Un texte parallèle dit « Alors Retsin, roi de Syrie, et Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, vinrent pour attaquer Jérusalem. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas engager le combat. » Fin de citation. La raison de cet échec n'est pas due à un sursaut de Juda, mais à l'Éternel qui a protégé son peuple. Akaz, quant à lui, au lieu de se confier en Dieu, est allé se vendre aux Assyriens. Je lis le passage. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton vassal et ton fils, viens me délivrer du roi de Syrie et du roi d'Israël qui sont venus m'attaquer. » Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans le temple de l'Éternel et dans le trésor du palais royal et il l'envoya comme présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie répondit à sa demande. Il attaqua Damas, prit la ville et en déporta la population à Kir. Quant à Retsin, il le fit mettre à mort. Fin de citation. Bien que Akaz ait été un roi ignoble, idolâtre, son stratagème a réussi parce que Dieu n'était pas encore prêt à laisser tomber Jérusalem entre les mains de ses ennemis. Ce n'est que environ un siècle plus tard, un siècle et demi même, en 586 avant Jésus-Christ, que la ville sera conquise par les Babyloniens. Je continue le texte. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et Shir-Yashub, ton fils. Tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du Blanchisseur. » Verset 3. Jusqu'à présent, Ésaïe est resté dans l'ombre, mais il reçoit maintenant son ordre de mission. À première vue, il semble assez curieux qu'il ait emmené son fils avec lui, mais en réalité, cette démarche est due à son nom, Shiar Yashub, qui signifie « un reste se convertira ». On retrouve d'ailleurs ce nom un peu plus loin dans le livre, mais cette fois-ci c'est en tant que phrase d'un texte. Cette expression, le nom de son fils, résume bien le message d'Ésaïe qui annonce un jugement à venir et la promesse de salut pour une toute petite partie du peuple seulement, celle qui restera après l'épuration de la nation. Ésaïe a eu un deuxième fils dont le nom, long et compliqué, a lui aussi un sens très symbolique et en rapport avec le ministère prophétique de son père, puisqu'il signifie « hâter le pillage », emporter promptement le butin. C'est tout dire. L'aqueduc dont il est question dans ce passage était à proximité de la route du champ du Blanchisseur, juste en dehors des murs d'enceinte de Jérusalem. La ville recevait son eau du réservoir supérieur, aussi appelé ancien étang, et qui était alimenté par une source importante, que les Yébousiens, les premiers habitants de ce qui deviendra Jérusalem, exploitait déjà. Le roi Akaz avait de bonnes raisons de se trouver près de ce réservoir d'eau, vu qu'il se préparait à soutenir un siège. Ne voulant évidemment pas qu'il tombe entre les mains ennemies, il est probable qu'il surveillait les travaux de renforcement du système défensif qui à cet endroit était vulnérable, alors que le sud et l'est de Jérusalem étaient bien protégés par de profonds ravins. Ce réservoir supérieur existe toujours. Il est situé au nord-ouest de Jérusalem, non loin de la porte de Jaffa. Plus loin, Ésaïe parle également d'un réservoir inférieur. Il était plus au sud et lui aussi existe toujours. La route du champ du Blanchisseur menait à un quartier qui se trouvait dans le voisinage du réservoir supérieur, parce que l'activité des foulons qui nettoyaient le cuir et les étoffes de laine exigeait beaucoup d'eau. C'est aussi là que l'envoyé du roi d'Assyrie, Sennachérib, s'en tiendra quelque 30 ans plus tard avec les représentants d'Ézéchias, roi de Juda. Tout ça paraît bien compliqué parce que ça l'est. Il va sans dire qu'une des conditions nécessaires à la vie sur terre, c'est l'eau, comme on vient de le lire. Pour ceux qui blanchissaient les cuirs. En France, nous avons la chance d'en avoir qui soit à peu près potable partout, mais il y a de plus en plus d'endroits au monde où elle fait défaut ou bien elle est polluée au point de représenter un sérieux danger pour la santé parce qu'elle contient des micro-organismes ou des produits toxiques. Dans le domaine spirituel, l'eau symbolise la parole de Dieu et la vie. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel est appelé la source d'eau vive, et dans le Nouveau, Jésus a dit à la femme samaritaine, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Fin de citation. Je continue le texte qui rapporte ce que Ésaïe doit dire au roi Akaz. L'Éternel dit à Ésaïe, tu lui diras, prends garde et calme-toi, n'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces deux queues de tison fumant, devant la fureur de Retsin et de Péka, fils de Remaliaou, parce que la Syrie, Éphraïm et le fils de Remaliaou ont tramé contre toi un mauvais coup en disant, marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme roi le fils de Tabéel. » Versets 4 à 6. En comparant les rois syriens et israéliens du Nord à des tisons fumants, Dieu annonce leur fin prochaine. Effectivement, ils sont tous deux morts dans un bain de sang. Tabéel est mentionné par le roi assyrien Tiglath-Pileser sous le nom de Tibi-Ilu. Cet homme était probablement un haut fonctionnaire syrien que le roi Retsin voulait placer sur le trône de Juda afin qu'il participe à la coalition qu'il formait avec le royaume israélite des 10 tribus du Nord contre la Syrie, bien entendu. Mais Akaz avait déjà envoyé une ambassade et beaucoup d'argent pour demander l'aide de la Syrie. Ce fut un calcul désastreux parce que, après avoir empoché tout le magot, Tiglath-Pileser a d'abord pris son temps, puis il a conquis la Syrie et le royaume israélite du Nord, mais ensuite il s'est mis en campagne contre Juda. Je continue le texte. « Mais ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car c'est Damas, la capitale de la Syrie, et c'est Retsin qui est le chef de Damas. Dans 65 ans, Éphraïm sera écrasé et n'existera plus en tant que peuple. La capitale d'Éphraïm, c'est Samarie. Le chef de Samarie, c'est le fils de Remeliaou. Si vous n'avez pas confiance, vous, vous ne tiendrez pas. » Versets 7 à 9. Le roi Akaz et sa cour sont sommés de croire les paroles du prophète Ésaïe. Parce que les Syriens et les Israélites du Nord n'étaient pas restés chez eux et qu'ils étaient sortis de leur gong, pour ainsi dire, en voulant conquérir Juda, ils seront jugés. La prophétie de 65 ans concernant Éphraïm a été faite en 734 avant Jésus-Christ. La Syrie a conquis les 10 tribus du Nord en 722, a déporté une grande partie de sa population et l'a progressivement remplacée par des gens d'autres pays. Ces nouveaux colons ont continué d'arriver jusqu'en l'an 669, date à partir de laquelle les Israélites qui étaient restés à Samarie furent complètement dilués dans la masse païenne importée. C'est ainsi que le royaume israélite des 10 tribus a cessé d'exister. Je continue. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Mais Akaz dit, « Je n'en demanderai pas. Je ne veux pas forcer la main à l'Éternel. » Versets 10 à 12. Pour aider Akaz à croire, Dieu est prêt à faire un miracle aussi extraordinaire qu'il le souhaite. Ce sera pour lui, sa cour et le peuple, le gage de l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. L'Éternel fait donc preuve d'une bienveillance exceptionnelle envers ce roi. Mais la réponse qu'il donne à Ésaïe, et qui semble fort pieuse, n'est qu'un vernis. Il semble qu'il connaissait la loi qui disait « Vous ne forcerez pas la main de l'Éternel ». Mais en réalité, il feint d'une part de croire en Dieu et d'autre part de craindre de l'offenser en lui demandant un signe. En effet, c'est l'Éternel lui-même qui le lui propose, ce n'est pas Akaz qui le lui demande. Dieu veut ainsi prouver au roi que d'une part les paroles du prophète Ésaïe venaient bien de lui et d'autre part, il voulait aussi lui donner l'occasion de se repentir, une dernière chance d'abandonner son idolâtrie et de revenir à son Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas de croire en lui sans nous donner une solide fondation sur laquelle reposer notre foi. Il ne veut pas que je saute dans le vide les yeux fermés. Si je fais confiance à Jésus-Christ, c'est sur la base d'événements historiques, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Fils de Dieu. Le roi Akaz a refusé l'offre de l'Éternel. Il ne voulait pas avoir un contact trop intime avec lui en acceptant son aide parce que cela l'aurait obligé à changer de conduite et de politique. Comme il avait déjà décidé de s'en remettre à l'Assyrie plutôt qu'en Dieu, il a endurci son cœur. Superstitieux comme tant d'incrédules, il a couvert sa mauvaise foi avec le manteau de l'hypocrisie d'une réponse pieuse. Une fois, la dame qui faisait le catéchisme nous a raconté l'histoire du bon samaritain. Elle a décrit avec force détail comment un homme fut attaqué par des brigands, comment ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et le laissèrent gisant dans son sang. Nous la regardions avec des yeux grands comme des soucoupes. Elle nous a parlé du prêtre et du lévite qui étaient passés à côté de ce pauvre homme sans lui prêter la moindre attention. Puis elle a demandé à chacun des enfants ce qu'ils auraient fait. L'un a dit « Je serais parti chercher de l'aide ». Un autre « J'aurais pansé ses plaies avec ma chemise ». La dame s'est alors approchée d'une petite fille qui semblait très contrariée. « Et toi, qu'aurais-tu fait ?»« Eh bien, de le voir par terre, je crois bien que j'aurais vomi ». Cette petite fille était sincère et c'est aussi ce que Dieu pense de notre religiosité. Ça le fait vomir. Je ne sais pas si vous allez dans un lieu de culte le dimanche ou si vous faites vos Pâques, mais il ne faudrait surtout pas croire un seul instant qu'un rite, quel qu'il soit, va vous mettre automatiquement en règle avec Dieu. La foi est une affaire individuelle entre moi et Dieu. Nul ne peut prendre la décision à ma place. Je dois personnellement accepter Jésus-Christ et seulement lui comme mon sauveur. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?
Le groupe EXO vient de nous chanter ce titre, Tu es le maître.
Avant de clore la chronique d'aujourd'hui, nous vous demandons quelques instants d'attention. Pour apprécier à nouveau cette étude, voici notre site internet, chemindevie.info, avec chemins au pluriel et le tout en un seul mot.
Ceux parmi vous qui aimeraient nous contacter pour obtenir le texte de ce jour ou des précédents peuvent le faire en appelant pendant les heures de bureau au 0820 200 628. C'est un numéro indigo. 0820 200 628. Restez bien à l'écoute de la suite de nos programmes. Au revoir.
Merci de votre fidélité et à demain.